sauvage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Voilà, 19h passé de 1 minute à la pendule de la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info, comme tous les jours de la semaine, 19h-20h. Le jeudi que nous sommes est animé, comme d'habitude, par Delphine.
Et par toi-même, Laurent.
Voilà, nous sommes donc le 15 novembre, si tout va bien. Et nous allons ouvrir... Alors, on va faire un Canu Info avec une première partie, un invité exceptionnel.
Ouais.
Un comeback, quelque part.
C'est un peu ça.
Ouais. Qui va nous parler des différentes luttes et de mobilisations dans l'éducation, et notamment celle qui a eu lieu la semaine dernière et qui se poursuit peut-être, il nous dira tout, à Barbus, un collège de Vaux-en-Velin.
Oui, on a abordé ça très 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 rapidement et d'une manière assez superficielle la semaine dernière, le sujet. Donc je suis plutôt contente qu'on puisse... en parler un peu mieux, et avec les acteurs de terrain, comme on dit,
voilà.
Et chez les professionnels.
Et après, on parlera de plein d'autres choses, de justice, de casse sociale, de profiteurs, de plein de choses. Donc on va commencer avec Mathias, qui est là.
Ouais, bonsoir. Je vais faire un petit bilan de la lutte qui a été menée toute la semaine dernière au collège Henri Barbus de Vaux-en-Velin. Puisque les personnels du collège se sont mis en grève à partir de mardi dernier à 95% de taux de grévistes. Cette grève a duré sur 4 jours et c'était une grève, on va dire, à nouveau en ce qui concerne ce collège, mais après j'élargirai à l'ensemble de l'éducation nationale, à nouveau sur la question des effectifs, c'est-à-dire du nombre d'élèves dans les classes et du nombre d'élèves dans les établissements, et en particulier dans les établissements dits d'éducation prioritaire, qui sont censés être des établissements avec des effectifs plus allégés, évidemment, puisque c'est des élèves qui connaissent de plus grandes difficultés, qui ont besoin d'un encadrement et d'un nombre d'adultes plus important. Donc cette lutte, c'est déjà une lutte en fait qui fait complètement écho aux grands mouvements nationaux qui semblent s'organiser et se dessiner. Là, je fais référence bien sûr à la grève de ce lundi, hein, qui elle... dénonce les suppressions de postes qui sont colossales pour toutes les années de quinquennat Macron, hein, à moins de 1600 postes, et qui ont évidemment pour premier effet d'augmenter le nombre d'élèves dans les classes, et qu'on se trouve d'ailleurs en REP+, ou dans des collèges de centre-ville, ou dans des établissements de campagne, qui sont aussi certainement ceux dont les effectifs augmentent le plus vite, vu que c'est les endroits où on crée le moins de postes, voire où on ferme des postes. Ce mouvement-là, et puis aussi bien sûr... même si il est plus informel, plus discutable et plus compliqué. Il y a aussi derrière le mouvement qui a empêché notre ministre de passer de bonnes vacances de cet automne, le mouvement hashtag pas de vague, qui lui aussi renvoie quelque part à une volonté que les choses, en tout cas, non pas qu'elles se passent bien, elles peuvent se passer mal, que la question des effectifs explique aussi qu'elles puissent se passer mal, mais qu'en tout cas, on n'en parle pas. Donc voilà, nous plus localement et concrètement, il faut savoir que ce collège se bagarre régulièrement avec l'institution depuis une dizaine d'années pour que les effectifs de ces classes n'excèdent jamais les 24 élèves par classe. Alors pourquoi 24? Il y a tout un tas de raisons. D'abord, ça a été à une époque, pas si lointaine, le seuil du nombre d'élèves officiel pour nous dans l'Académie de Lyon, il y a à peu près 6 ans. Ce qui veut dire quand même que plus on avance dans le temps, plus les conditions se dégradent objectivement. On peut aussi le voir évidemment sur le taux d'encadrement par élève, c'est-à-dire le nombre d'adultes qu'il y a par élève. Et ça, c'est le cas dans tous les établissements prioritaires de France et dans les établissements de l'éducation nationale. Le taux d'encadrement ne cesse de baisser depuis une vingtaine d'années. Donc ça, c'est la conséquence du manque de postes qui ne sont pas suffisamment créés pour faire face à l'arrivée d'élèves importantes en France et importantes particulièrement dans ces quartiers populaires. Donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire qu'on a une institution qui en fait, plutôt que de détricoter l'éducation nationale, elle la laisse tranquillement faire face à une vague démographique qu'elle ne pourra pas absorber. Le but quand même c'est aussi de transférer un maximum d'élèves dans le privé, mais on sait aussi que dans le privé, les effectifs rencontrent les mêmes problématiques, puisque ça déborde. Et donc sur Barbus, ce seuil de 24 avait réussi à être respecté, on va dire. En tout cas, on l'avait fait respecter, les équipes l'avaient fait respecter par des grèves, essentiellement. À chaque rentrée de septembre, on découvrait que des classes étaient en sureffectif, des grèves étaient organisées pour rétablir tout de suite le nombre avant que l'année commence, avant que les élèves soient régulièrement inscrits au collège ou dans les classes en question. Et puis cette année, évidemment, même problématique, ils ont commencé à essayer d'enfoncer le clou en nous passant quelques classes à 25 élèves avant les vacances. Il y a eu un début de lutte, il y a eu une sorte d'accord, parce que c'était un peu une année exceptionnelle sur ces classes-là, pour qu'ils excèdent plus, qu'ils n'en mettent pas plus que ces deux classes que nous avions à 25, et considérer que c'était exceptionnel pour cette année. Puis évidemment, à la rentrée des vacances de l'automne, on avait deux classes à 26, qui a enclenché cette grève. On a été reçu par tous les niveaux, de hiérarchie du rectorat. Je vais passer parce qu'on a eu quand même quatre audiences. Au cours de ces audiences, on s'est surtout rendu compte en fait de l'incompétence totale des services rectoraux qui connaissent pas du tout leurs établissements, ignorent volontairement ou pas les options qui y sont menées, les contraintes qui s'appliquent à l'inscription de certains élèves, ignorent aussi les effectifs, ignorent même jusqu'à l'existence, assez fort, on a encore eu ça dans... Je passerai quelle audience, mais ignore l'existence de certains collèges qui existent. Ouais, quand on leur parle d'un établissement sur la commune de Vaux-en-Velin et qu'ils en ignorent l'existence, c'est quand même toujours assez hallucinant. C'est les gens qui sont censés encadrer notre travail et ils ne savent pas que certains établissements où on travaille existent. Bon, c'est un exemple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça a été géré par un grand amateurisme, qu'on a compris que la seule chose qui était certaine, c'est qu'il y avait des flux démographiques très importants qui arrivaient sur l'Académie Lyon. Et qu'ils allaient être encore plus importants l'année prochaine, qu'il y avait donc une menace en fait qui concernait bien au-delà du collège Henri Barbus, tous les établissements du secondaire et aussi du primaire à terme de l'académie. Et puis alors, sur cette question, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait les institutionnels qu'on a rencontrés nous disent, quand on leur dit c'est problématique, vous prévoyez pas assez de places, pas assez d'établissements, pas assez de classes, pas assez de postes, puisque vous dites vous-même qu'il y a plein d'élèves qui arrivent, et particulièrement à Lyon, et ils disent, mais on n'avait pas prévu l'attractivité de la métropole. Alors, juste, je précise pour le quidam que la métropole est la personne institutionnelle qui désormais construit, possède et entretient les collèges. Donc l'endroit où justement il y a ce manque de collèges construits. Voilà, et donc cette métropole qui est si attractive, alors on nous a tout sorti, parce qu'on a essayé de comprendre nous aussi, on écoutait, pourquoi y a-t-il tellement d'enfants, en plus, pas prévus, qui arrivent de partout, et en nombre considérable, d'après ce qu'on nous raconte. Les raisons sont variées. Alors évidemment, on nous a sorti le truc des migrants, pour nous culpabiliser, même si évidemment qu'il y a une augmentation des élèves allophones sur l'académie, qui est assez importante, elle ne recouvre pas du tout l'augmentation générale, ingérable de la question. Et voilà, et donc là, les derniers indices qui nous ont été donnés, c'est que, en fait, ce qui est certainement probable, c'est pas le problème, mais qu'en fait, les urbains, ceux qui ont quitté notamment la métropole de Lyon pour vivre à la campagne, peuvent plus payer leur plein d'essence, donc ils reviennent en ville. Que les autres villes, les villes moyennes, sont, sont perdantes, il n'y a pas d'emploi, etc. Il y en a à Lyon. Bon, que des choses qui sont logiques, puisqu'on sait que depuis trois mandats, notre baron local, Maître Collomb, a voulu cette espèce de politique de grandeur et d'attractivité maximum de la métropole de Lyon. Sauf qu'il a, dans le même temps, endossé la responsabilité de construire tous les services publics que ça demande. Ça veut dire un investissement colossal. Si vous attendez des centaines de milliers de nouveaux habitants sur 10 ans, il faut construire les hôpitaux, les écoles, les collèges en fonction, ce qui n'a absolument pas été fait. Et il n'y a pas de réaction nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan d'urgence pour faire face à cette situation. Non, la solution, c'est que les profs ferment leur gueule et qu'ils prennent des classes en sureffectif, que le climat scolaire et la réussite des élèves ne peut que se dégrader. Et c'est une réponse finalement qui est assez localement à la hauteur de la non-réponse hein, que le gouvernement, cette fois-ci, n'apporte pas aux demandes hein, de juste relever le niveau de création de postes pour faire face à l'arrivée démographique. On parle même pas d'augmentation, en fait, hein, du coup, d'effectifs. Voilà, alors juste, je vais pas passer...
Comment ça s'est passé à Vonvelin, voilà. Votre mobilisation?
Donc, notre mobilisation, bah, bien sûr, elle a été à destination déjà de nos élèves, de nos parents d'élèves. C'est une mobilisation qui s'est passée essentiellement sur le lieu du collège. On a organisé un barbecue devant le rectorat également pour obtenir une audience donc de l'adjoint de la rectrice. Disons que ce qui s'est passé surtout, c'est que le ton était très, 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 très dur. Hein. C'était un ton qui rappelait les années Sarko... pour ceux qui ont eu affaire à l'administration dans des conflits à cette époque-là. Et puis bon, bah là, il a un petit peu changé parce que je pense que la mobilisation les a un petit peu inquiétés, surtout qu'on a continué alors qu'ils avaient décidé qu'ils ne lâcheraient rien. Donc aujourd'hui, là où on en est, c'est qu'on a quelques petites promesses qui ont été arrachées, mais alors du bout des doigts, j'ai envie de dire, parce que c'est pas des grandes promesses. En gros, on nous promet de pas faire déborder l'ensemble de l'établissement. Je pense que l'obsession, c'est de pas faire que ces collèges redeviennent des collèges à 700, 750 élèves, sachant qu'ils ont été construits pour 550. Et donc, on nous assure qu'on fera en sorte qu'ils ne dépassent pas 650. Donc, nous, on a 643 actuellement. Ça veut dire qu'ils peuvent encore nous donner 7 élèves de plus alors qu'on est plein comme un œuf. Ils s'assurent aussi qu'ils ne vont pas monter au-delà de 25, ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas refaire des classes à 26 qui nous ont imposées et qui ont enclenché ce conflit. Et puis, la grande idée, c'est bien sûr de proposer aux professeurs de ces établissements de participer à un groupe de travail institutionnel pour voir ce qu'on peut faire par rapport aux effectifs. Sachant qu'en gros, ce qu'on a senti, et c'est peut-être certainement même une forme de stratégie, c'est qu'ils sont un petit peu désemparés par la situation. Alors pas aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas aussi grave que ce qu'elle risque de devenir, mais ils ont un peu peur hein, de cet effet ciseau qui nous attend, là, encore une fois, dans les mois qui viennent, particulièrement dans l'Académie de Lyon, et là dans tous les types d'établissements, d'une arrivée importante d'élèves qui n'auront pas de professeurs face à eux, donc des effectifs qui vont déborder. Donc voilà, bon bah ça dit aussi, juste, je voulais finir sur ça, ça dit aussi cette volonté quand même de déminer hein, les petits conflits sociaux qu'on voit naître un peu partout en France, en sourdine, hein, je pense ici à celui de La Poste, lancé dans deux départements français, qui commence à avoir un mouvement de grève qui a duré et qui se propage apparemment. On s'est rendu compte à l'occasion de cette lutte, puisqu'on a lancé une grande pétition qui a recueilli, je crois, plus de 1200 signatures à l'heure actuelle. Bah voilà, qu'il y avait un nombre de luttes d'établissements en France dans des coins paumés où ils étaient en grève depuis 10 jours, 15 jours, etc. sur des questions de suppression de postes, de classes, d'effectifs, etc. Donc voilà, ça c'est une lutte qui ressemble un petit peu à l'époque en ce moment là où finalement les gens se mettent en situation de lutter sans forcément évidemment un gros mouvement syndical derrière ou des appels nationaux, etc.
Oui, alors il y a eu une mobilisation pour le coup plus générale que celle de Barbus. Lundi dernier, on a eu, je crois, entre 40 et 50% de grévistes dans l'ensemble de l'éducation nationale, enfin dans les profs. Barbus est arrivé à 95%. On pourrait espérer dans un prochain mouvement, alors je ne sais pas ce qui est prévu, parce que je ne comprends pas bien comment s'organisent les organisations syndicales. Faire une grève d'un jour, on sait très bien que ça ne sert à rien, hein, mais on a senti quand même que les profs étaient plus mobilisés ce lundi. Ça veut dire qu'effectivement, si ça enclenche quelque chose, on pourrait espérer un mouvement d'ampleur et qu'il y ait un maximum de bahuts en grève. Ça concerne vraiment tout le monde et il y a une attaque en règle. Alors, bien évidemment, dans le primaire, ils sont plutôt protégés en ce moment puisqu'ils leur allouent plus de moyens qu'aux autres. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils divisent pas mal. C'est un peu la stratégie du ministre de l'Éducation, qui est un ministre qui connaît bien le système, hein, puisqu'il a bossé dans l'éducation nationale pendant un certain nombre d'années. Donc tout ce qu'il fait, c'est bien réfléchi. C'est pas, voilà, il est pas maladroit en fait. Hein, il y a une vraie volonté Alors je sais pas de quoi, de dégrader le service public de l'école, quitte à un jour le privatiser, mais ça c'est une idée qu'on a depuis 20 ans, et bon, pour l'instant ça tient toujours, mais il y a peut-être ça derrière. Il y a aussi l'idée qu'ils en ont, voilà, ils veulent faire surtout des économies pour mettre de l'argent ailleurs, et que de toute façon il faut taper dans les gros budgets, avec l'école c'est un gros budget.
Voilà, et peut-être rappeler, parce qu'il faut toujours le rappeler, Là, c'est vrai que j'ai parlé du problème des effectifs global en France. Maintenant, sur l'éducation prioritaire, il faut quand même rappeler que c'est une politique qui existe dans à peu près tous les pays européens, de distinguer les moyens qu'on alloue aux zones d'éducation prioritaire des zones non prioritaires. Et il faut savoir que c'est une des particularités, c'est qu'en France, sur le très important budget consacré à l'éducation nationale, en part par rapport aux autres pays, il est très important. À l'intérieur de ce budget, la répartition éducation prioritaire et éducation classique, elle est naze en fait, elle est nulle comparée à d'autres pays. Donc on cite souvent la Finlande, etc. Mais c'est des pays, il n'y a pas mystère, où en fait, à l'intérieur de leur budget d'éducation nationale, ils mettent un paquet très très important sur l'éducation prioritaire, ce qu'on ne fait pas en France. On voudrait que ça ressemble. Et aussi bien sur la facture que reçoit le ministère à la fin d'année que sur les résultats d'ailleurs, à un collège lambda, un collège de centre-ville, sauf qu'évidemment c'est pas possible, et là on se rend compte d'ailleurs, hein, c'est les interlocuteurs qu'on a eus qui le disent eux-mêmes, même si c'est pour enterrer l'éducation prioritaire, ils disent on comprend pas, ça fait 10 ans qu'on met de l'argent, ça marche pas, les élèves ils sont toujours en échec, socialement les classes sociales elles changent pas, alors ça aussi ils comprennent pas que l'école ne soit pas la baguette magique qui fasse que les enfants des enfants qu'on a eus changent de classe sociale, font participer à l'ascension sociale, et ça ne marche pas. Donc, bon, évidemment, si on attend un miracle du type renversement du premier effet du capitalisme par l'école, on risque d'attendre longtemps. Mmh. Et puis, deuxièmement, par contre, si on veut vraiment mener une vraie politique d'insertion sociale de ces quartiers, de ces enfants-là, bah, il faut mettre beaucoup plus d'argent au sein de l'argent qui est dépensé à l'intérieur de l'éducation nationale. Et encore une fois, il y a hélas certaines classes, parfois en centre-ville, où il n'y a pas les effectifs qu'on a à la campagne ou en zone prioritaire.
Il y a même des gens qui ont chiffré que certains bahuts de centre-ville ont plus d'argent que des bahuts en zone d'éducation prioritaire. C'est un truc de fou, quoi. Donc, effectivement, il y a un gros problème. Il y a quand même le risque derrière tout ça de faire sauter tous ces aides supplémentaires au REP, comme tu disais, avec l'excuse que regardez, ça marche pas parce que on met de l'argent et on n'obtient pas mieux.
Bah oui, comme la NPE, ça marchait pas.
Alors, moi, j'aimerais qu'on mette ça en rapport avec un événement qui s'est déroulé sur deux jours à Lyon, et en particulier hier à l'auditorium. C'était les 40 ans de la politique de la ville. Je sais pas si vous avez cause, la politique de la ville. C'est donc un machin qui est donc depuis 4 décennies, qui était mis en place pour soutenir, aider, développer, sortir de la discrimination des territoires, comme on dit, hein, et pas des quartiers, en France. Et donc, il y avait des thématiques, et une des grandes thématiques qui est portée par la politique de la ville, c'est la culture. Hein, et alors donc hier on a eu Kepenekian, monsieur Kepenekian qui est venu, on n'a pas eu Gérard. Il n'est pas venu, mais que Kepenekian est venu faire son petit discours avec sa petite pique de « j'étais maire il n'y a encore pas si longtemps ». Et on a pu entendre Francis Boyer, qui est sous-directeur de la cohésion et du développement social au CGET, c'est le commissariat général à l'égalité des territoires, et qui à un moment était très heureux de nous parler des REP et des REP+. Et c'était marrant parce que ça rejoint un peu la même question, c'est-à-dire de se dire on a quand même des gens qui aujourd'hui portent une parole du gouvernement à travers ces organismes, qui parfois la portent très 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 bien, en vantant des protocoles, des financements, et qui en même temps sont en train d'être détruits, mais s'en servent dans des grands raouts, comme cette journée à l'auditorium où il y a eu Petit Four, Vin Blanc et tout le machin. C'était très très bon, hein. Il y a eu des débats qui étaient très intéressants au milieu de tout ça. Mais on a quand même ces gens qui viennent aussi représenter les gouvernements, l'État, mais les gouvernements, et qui mettent en avant des systèmes qui sont eux-mêmes en train de détruire. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Et le discours sur la culture était assez proche de celui qui est en train d'être tenu, hein, à cette antenne. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on sort de l'argent pour développer la culture. La culture, c'est quelque chose de très large, hein. Il faut pas entendre que le mot spectacle, c'est quelque chose de large. Et sur lequel on a des mille feuilles de financement, mais qui au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a toujours des quartiers qui sont dans la merde, qui sont discriminés, qui sont défavorisés, qu'il y a toujours aujourd'hui des gamins qui ont 10 ans et qui n'ont pas d'accès à la culture d'une manière générale, alors que leurs parents ont déjà été dans des quartiers qui eux-mêmes étaient financés en politique de la ville. Et donc on a l'impression que cet argent, il est soit pas suffisant, soit mal placé, ou qu'à chaque fois, qu'on a des gouvernements et des politiques qui arrivent et qui détruisent ce qui était mis en place par des équipes précédentes, et qui font qu'à chaque fois il faut recommencer, il faut à chaque fois se battre pour garder les quelques moyens qu'on a. Et je trouve qu'entre l'éducation et la culture, c'est finalement exactement la même chose qui est en train de se passer. Et ce qui s'est passé hier sur les 40 ans de la politique de la ville, c'est assez symptomatique de ce qu'on a pu entendre dans la salle aussi, de gens qui ont dit mais c'est bien gentil, mais moi ça fait 20 ans que je fais de la politique de la ville, 20 ans que l'association on est financée comme ça, et on continue encore à faire des projets, alors qu'en plus certains de ces projets devraient être aujourd'hui en droit commun dans le financement, et ne devraient plus avoir des aides spécifique. Ça aussi, c'est de la discrimination d'aller à Vaux-en-Velin et de prétendre que parce que tu montes un spectacle participatif, il faudrait forcément qu'il soit payé par de la politique de la ville et non plus par du droit commun. Donc on garde quand même un petit peu des cases aussi, et en même temps, là où il faudrait vraiment avoir des cases parce qu'il y a des besoins, bah, on est en train de les enlever, de les casser. Donc là, on se dit qu'il y a à la fois un millefeuille, une mauvaise répartition de l'argent, et puis il y a surtout, on nous enlève le pognon. C'est très clair.
Et pour terminer sur la partie éducation, rappelez que ça se rebouge un petit peu, voire beaucoup, du côté de Jamais sans toi. Parce que là, ce soir, à Gilbert Dru, à 17h30, c'est un peu passé là, maintenant c'est trop tard, il y avait un petit goûter pour relancer la lutte. Donc on rappelle, chez les enfants qui sont scolarisés dans les écoles lyonnaises et qui sont à la rue. Et il y a une mobilisation qui est annoncée pour mardi prochain. Je vais renoter, à 18h devant la préfecture, donc qui est dans le 3e, qui est au Gagneur. Voilà, pour demander que les gamins ne dorment pas à la rue.
Ouais, et puis peut-être une touche positive sur cette question, mais comme vous devez sûrement le savoir, aujourd'hui et demain se dérouler une formation intersyndicale des enseignants, justement pour donner quelques billes sur comment faire face à ces situations d'élèves qui se retrouvent à la rue, quelles sont les démarches, comment on peut mobiliser, etc. Et d'après ce que j'ai su, de sources presque sûres, il y a eu 160 participants, donc c'est un truc record. Enfin, ouais. Les gens ne se rendent peut-être pas forcément compte, mais j'ai jamais entendu 160 participants à ce genre de formation. Donc c'était une fausse note positive. La note positive, c'est que ça veut dire qu'il y a des gens, beaucoup de profs qui se sentent concernés,
voilà, qui sont face à ces problèmes. Ouais.
Mais voilà, derrière, ça veut surtout dire qu'il y a beaucoup de profs, et certainement plus que ces 160-là, qui sont désemparés devant ces situations-là. Donc il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec le collectif Jamais Sans Toi. Pour les gens qui peut-être nous écoutent, sont loin de Lyon, n'ont pas de contact et sont dans des situations comme ça en tant que prof face à des élèves qui dorment à la rue, sachant que l'hiver va finir par arriver, non ?
Oui, enfin avec le réchauffement, on est moins sûr. Merci Mathias d'être venu.
C'est l'heure du bis. Allez.
Allez,
ciao Mathias. Donc on poursuit, c'était toi, Delphine.
Et oui, je vais poursuivre. Alors dans le discours de M. Kepenekian, qui était là pour représenter la métropole et la ville de Lyon, sur les 40 ans de la politique de la ville, qui était donc un événement national. Hein. Il ne s'agissait pas juste de rassembler des gens sur Lyon, mais bien de faire un rassemblement vraiment sur le territoire français pour dire que c'est vachement bien. Alors en plus, à Lyon, il paraît qu'il y a eu un prix à Mexico qui a été remis pour le travail de la politique de la ville fait sur la métropole et la ville, qui est montré en exemple. Hein. Ah bon. Et Monsieur Kepenekian nous a donc dit qu'il fallait être très fier parce qu'il portait des projets importants. Et d'ailleurs, c'était ici qu'on ouvrait un certain nombre de bibliothèques et sur lesquelles il y a de l'argent qui est mis pour ouvrir. C'est plutôt une bonne chose. Bon, certes que dans toutes les bibliothèques, ça se passe pas pareil. Alors, je vous rappelle qu'il y a un mouvement qui dit qu'il faut ouvrir plus les bibliothèques, que les bibliothécaires ne sont pas contre, simplement il faudrait leur donner des moyens aussi, parce qu'ouvrir plus tard le samedi, voire le dimanche, voire plus tard en soirée, ça veut dire qu'il faut du personnel pour ouvrir tout ça, donner l'accès à la culture et aux bibliothèques. Encore une fois, les agents bibliothèques sont pas contre, hein, dans la majorité. Même si on se doute bien ça, ils n'éclatent pas de bosser le dimanche. Simplement, il faut qu'il y ait des moyens, et puis qu'ils soient tous et toutes rémunérés correctement. Et donc, il y a une bibliothèque dont on parle ici de temps en temps, qui s'appelle la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Et on en parle de temps en temps parce qu'il y a souvent des luttes et des mouvements de grève. Et ben là, il y a des gens grévistes qui ont trouvé un super truc à faire cette fin de semaine, et autre chose que d'aller demander du pognon pour mettre de l'essence dans leur bagnole. Ça va se passer ce vendredi 16 et ce samedi 17 novembre. La BNF est encore en grève pour défendre les conditions de travail et le service public, parce que c'est des choses qui vont avec, c'est comme dans l'éducation, c'est comme dans un certain nombre de secteurs, c'est-à-dire que l'idée c'est que si on dégrade leurs conditions de travail, c'est que vous êtes moins bien accueillis. Tout simplement. Et il faut aussi rappeler que la BNF, c'est un lieu aussi de travail pour des étudiants, pour des chercheurs et des lecteurs et des lectrices. Mais donc il y a tout un tas de gens qui sont concernés par ça. Et là, il y a une intersyndicale CGT-FSU Sud Culture qui donc appelle à deux nouvelles journées de grève. Alors il faut se rappeler que sur le mois d'octobre, il y a déjà eu 5 journées de grève et qu'il y avait eu 8 journées entre mai et juillet dernier. Donc et bien à chaque fois la grève est plutôt bien suivie, hein. Il y a eu des jours où ça a été fermé, ils ont avaient organisé d'autres mouvements pour accueillir aussi les gens extérieurs, mais les salles de lecture étaient fermées, il y a eu des blocages de caisses, des entrées gratuites, enfin plein de choses. Et donc là il va y avoir donc samedi des prises de parole, une assemblée générale du personnel en lutte, il y aura un pique-nique, donc c'est aussi l'idée, c'est que on soit solidaire. Alors nous ici on est à Lyon, ok, la BNF c'est à Paris, mais l'idée c'est que sur place les gens soient solidaires, et parce que on est usagers de ces lieux, et ben qu'on aille avec les grévistes soutenir et dire oui, il faut défendre les conditions de travail. Les choses se dégradent, il y a une précarisation des emplois et qu'il faut lutter contre tout ça parce que ce sont aussi nos lieux, nos outils à nous, lecteurs, lectrices. Est-ce que c'est important de se battre avec ces agents de la Bibliothèque nationale de France? Voilà, donc c'est une solidarité à la fois interprofessionnelle, puisque par exemple du côté de Sud, et ben Sud étudiants, on appelle à les soutenir les bibliothécaires en grève, les agents de la BNF, tout simplement parce que la BNF était allée soutenir les étudiants quand il y avait eu les grèves et les mouvements de blocage. Donc tout ça, c'est important de toujours penser aux autres et d'être solidaire. Et c'est un peu l'idée de ces deux journées, et en particulier du samedi 17 novembre, qui est un mouvement aussi de convivialité et de rapport humain, et de raconter aussi ce qu'on vit au travail et au quotidien. Voilà.
Alors, une petite brève de justice qui m'a fait vomir tout à l'heure.
Alors, t'as écrit justice de M avec trois petits points. J'ai pas su si c'était.
Quatre petits points.
Ouais, toi, t'aimes bien mettre quatre petits points. Alors, je vais
dire,
j'ai pas su.
Le nombre de lettres qui manquent, en fait.
Ah ouais, parce que j'ai pas su si c'était Macron ou merde sur le coup.
Dirais le truc qui fait vomir. Quoi. Enfin, les deux font vomir, ceci dit.
D'accord.
Puisque Georges Tron, donc l'ancien secrétaire d'État à la fonction publique et surtout le maire de Dravel.
Ah, c'est d'accord.
Et sa copine Brigitte Gruel, qualifiée de petit soldat de son maître par certaines personnes et par l'avocat général, comparaissait donc depuis un certain temps, ça devait faire depuis le 23 octobre, dans cette cour de justice pour viol, agression sexuelle sur deux anciennes employées municipales. On sait qu'il y en a eu d'autres, hein, mais c'est les deux que la justice qui sont allés jusqu'au bout de la procédure et que la justice a accepté aussi. Et voilà, donc l'avocat général hier avait requis quand même 6 ans de prison ferme contre Georges Tron, 4 ans de prison pour Brigitte Gruel. Et voilà, et surtout, c'était plus important, moi, parce que bon, la prison, je doute toujours de l'intérêt de la prison. Il aurait plutôt fallu qu'il soit encadré par des médecins, peut-être, ou par je ne sais quoi, ou je ne sais qui plutôt. Et en tout cas, c'était plus intéressant qu'il soit déclaré inéligible pendant 5 ans et inscrit sur le fichier des délinquants sexuels. Ça me paraissait assez logique. Alors, je ne suis pas juge, bien évidemment, et malheureusement, les juges ont acquitté ces deux personnages. Donc Georges Tron a été acquitté, son petit soldat, comme il était qualifié, Brigitte Gruel, ont été acquittés. Pourtant, les déclarations étaient fortes, moi j'ai trouvé. Il y avait quelques incohérences, mais comme le disait leur avocat, vous savez, quand on a subi ça, c'est pas facile de remettre tout en ordre dans sa tête. Moi je le comprends bien. Il était défendu, entre autres, lui, par l'insupportable, le méprisable, Éric Dupond-Moretti. Vous me dites, je l'insulte pas, je le constate que c'est quelqu'un de méprisable, c'est facile de dire ça. Sauf que dans sa plaidoirie, il s'en est pris à la presse, hein, donc la presse l'emmerde a priori. Il s'en est pris aux féministes, donc a priori les féministes l'emmerdent. Du coup, c'est un mec méprisable, je le dis franchement, sexiste, hein, puisque les féministes, c'est-à-dire les femmes qui défendent le droit des femmes, pour lui, ne sont pas des personnes respectables. Et il s'en est bien sûr pris aux plaignantes, qui avaient vécu quand même des choses assez horribles. C'est juste quelque chose qui est... voilà, qui donne envie de vomir ou de se révolter, je sais pas de quoi faire. La justice fonctionne quelquefois, et quelquefois elle fonctionne pas, et là ça a vraiment pas fonctionné. Et puis, dans une deuxième petite brève sur la casse sociale, alors ça se fera peut-être pas, mais c'est les propos lancés à la Sarkozy, hein. On lance plein de choses et on regarde les réactions. Donc le gouvernement, à travers le Premier ministre, il me semble, a lancé l'idée de dire que quand les salariés sont malades, quand ça va un petit peu mieux, mais qu'ils sont encore en arrêt de travail, eh ben ils peuvent travailler et il faut développer le télétravail. Alors bon, vraisemblablement, le Premier ministre n'est pas allé à l'école, puisque arrêt de travail, en français, ça veut dire qu'on arrête de travailler. Arrêter, ça veut dire stopper, ne plus faire quelque chose, monsieur le Premier ministre, qui ne maîtrise pas la langue française. Donc effectivement, il veut remettre au travail les malades. Vous imaginez, vous avez un cancer, vous avez de la chimio. Alors, vous n'êtes pas dans la phase première, vous êtes allongé dans un lit où vous ne pouvez rien faire, mais vous allez un petit peu mieux tout de suite, il faut retourner au travail. En tout cas, c'est l'idée du gouvernement. Un mépris total des gens qui sont malades, déjà. Un mépris total aussi du droit du travail. Idée de casser encore plus la sécu et nos droits. Alors, comme il le dit, mais c'est juste une hypothèse, eh ben, on espère que ça restera sous la forme d'hypothèse, sinon on va encore bien morfler.
Alors, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est de donner le choix aux gens qui sortent de la maladie, qui sont en train de se rétablir, de faire du télétravail ou pas. C'est-à-dire que c'est là le vrai, c'est la vraie solution, c'est de pouvoir aussi proposer des systèmes aux salariés qui sont aujourd'hui inexistants dans l'entreprise, parce que l'entreprise, si tu reviens pas, elle te vire.
Oui, alors après il y a des alternatives qui existent déjà, mais qu'il a pas l'air de connaître, voilà. Comme les mi-temps thérapeutiques,
mais qui sont pas toujours faciles à obtenir.
Ah bah non, parce que le patronat, voilà, c'est le patronat, c'est pas nous. Donc forcément, mais il y a quand même des choses qui existent pour les gens qui peuvent reprendre et qui ont envie de reprendre le travail, ouais, puissent le faire. Or lui, il laisse entendre en fait que tous ceux qui ont un arrêt de travail, ils en abusent. Et c'est bien ça le discours de droite et réactionnaire qu'il y a derrière les propos du gouvernement. C'est à toi, tu vas parler de McDonald's. Oui. Oh, tu veux parler du McDonald's au salon du livre?
Bah oui, alors ça rejoint un petit peu finalement l'éducation, la culture, la politique de la ville. On va rester aussi un petit peu en idée, parce que McDonald's est donc un agent de la culture.
Ouais, moi je l'ai appris, parce qu'il y a eu pas mal de réactions, donc tu vas parler de cette affaire.
Alors oui, c'est ça.
Mais j'ai appris effectivement que c'était un grand acteur de la culture.
Alors j'ai appris donc... que depuis 2016, la multinationale McDonald's donne 100 000 euros de chèques livres aux enfants démunis dans le cadre de l'opération Partir en livre du Centre national du livre, du CNL. Dans ces Happy Meal, vous savez, c'est ces boîtes...
les menus.
Pour les enfants, avec dedans le menu spécial enfant. Et pendant longtemps, il y a eu des jouets.
Il y a toujours des jouets.
Il y a toujours des jouets, d'ailleurs, oui, tout à fait.
Mais tu peux prendre l'option livre.
Et tu peux prendre l'option livre. Et donc, la multinationale est très heureuse d'expliquer qu'elle a donné gratuitement 44 millions de livres aux enfants qui choisissaient l'Happy Meal livre. Hein.
Ouais.
Bon, le but, c'est quand même de faire manger le hamburger qui est dans la boîte, rappelons-le, avant d'offrir un livre.
Oui.
Non, parce que McDonald's, la multinationale, pourrait monter une fondation. Comme on voit beaucoup de multinationales le faire, pour faire tout à fait la même chose.
Et donner des livres.
Et donner des livres, mais d'une façon tout aussi hypocrite. Hein, ouais. Il faut bien être clair sur les fondations.
Sauf que là, il faut quand même acheter le
alors donc, pourri. L'affaire, c'est qu'effectivement, nous avons appris. Alors, si vous avez lu Le Canard Enchaîné, vous êtes au courant, mais ça, c'est dans d'autres journaux.
Parce que ça,
voilà.
Ça s'est répandu.
Ça s'est répandu, et puis d'autres en parlaient aussi. Il faut savoir que, donc, la multinationale McDonald's va tenir un stand au 34e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. C'est en Seine-Saint-Denis. Donc dans les régions parisiennes, c'est un salon qui va s'ouvrir le mercredi 28 novembre. Et donc c'est un stand non pas pour vendre des hamburgers, mais un espace de lecture accolé donc au stand Hachette Livre, a-t-on appris. Et puis donc il y a une pétition qui est lancée, et c'est de ça dont parle en particulier Le Canard Enchaîné, qui pétition contre la venue de ce stand McDonald's lors de ce salon.
Bah, oui, enfin il y a un mélange des genres qui est quand même désagréable là. C'est quand même c'est honteux.
Alors,
après l'impact, il sera pas important. En fait, dans la défense, dire oui, le salon il accueille 100 000 personnes. Finalement, l'impact de cet espace publicitaire de McDonald's, il est ultra faible parce que de toute façon l'impact publicitaire de McDonald's, il est dans toutes les rues avec les pubs horribles que l'on voit de partout.
Moi, je vais mettre un petit bémol. Il y a 30 000 élèves qui sont sur salon, c'est-à-dire 30 000 gamins dans le cadre scolaire qui viennent.
Ils se prennent de la pub. Je
suis d'accord.
J'ai fait un aller-retour. J'ai fait deux allers-retours hier dans Lyon à vélo. Il y a des pubs McDonald's partout. Donc en fait, on est matraqué et les gamins sont encore plus matraqués parce que nous on les regarde pas toujours.
Sauf que là, on justifie quand même que la multinationale a le droit de tenir un stand.
Non mais ce que je veux dire moi, c'est que en fait, c'est pas
un éditeur.
C'est pas l'impact qui compte, c'est le symbole. Et le symbole, c'est d'éjecter effectivement la malbouffe donc dans ce cas-là, McDonald's de ce lieu de culture.
Alors la directrice du salon qui s'appelle Madame Sylvie Vassallo avec deux S et deux L, vous pouvez lui écrire aussi pour demander quelques explications. Elle considère qu'en fait la multinationale a un rôle phare dans la lecture pour les enfants les plus éloignés du livre, de la lecture, tout ça. Alors encore une fois, ouvrons des bibliothèques, emmenons les gamins sur le temps scolaire le plus possible à la bibliothèque, créons des centres de livres dans les écoles, parce que ça aussi lire sur place, donner du temps aux gamins qui puissent repartir chez eux et le ramener le lendemain à l'école, ça aussi c'est de l'argent. Alors il y a des centres de documentation, mais si on donnait encore un petit peu plus d'argent, ben là pour le coup les gamins, même à Vaux-en-Velin, à Barbus, où on est sur des zones prioritaires, et ben si tu donnes beaucoup d'argent pour ça, et ben du fait tes gamins ils ont un accès aux livres, il n'y a pas besoin de McDonald's dans un salon.
Voilà, et puis allez donner vos livres, vous avez eu des enfants, ils ont grandi, ils lisent plus les livres. On sait que dans les familles qui s'intéressent à la lecture, il y a beaucoup d'achats de littérature jeunesse. Bah, à un moment, faut la partager et il faut aller donc les donner à ceux qui n'ont pas.
Ceux qui ont. Mais c'est aussi le partage et l'échange.
À l'école du quartier que vous êtes. Enfin voilà, il y a sûrement plein d'alternatives que passer par. Et d'oser dire que McDonald's a un rôle important. Si McDonald's a un vrai rôle important, c'est que la société va mal.
Et alors, j'écoute, c'est un truc qui est drôle, c'est que parallèlement à ça, au Québec, au Canada donc, de l'autre côté, il y a un recours collectif pour interdire les jouets dans les boîtes Happy Meal. Pourquoi ? Là, il s'agit de protéger les enfants de moins de 13 ans. Il y a une loi. Donc, là, la loi, en fait, elle est censée dire que l'enfant doit être protégé contre la publicité. Et donc, l'idée de mettre le jouet dedans, c'est en fait de faire un attrait pour l'enfant, pour qu'il achète plutôt le hamburger Happy Meal plutôt qu'autre chose. Et donc, il y a un recours collectif au Québec et c'est, voilà. En fait, tout ça pour vous dire que la multinationale McDonald's a quand même quelques ennuis un petit peu de partout dans le monde.
Bah ouais, voilà. Et je voulais le faire en début d'émission, j'ai oublié de le dire. Il y a quelqu'un qui est très important pour les enfants, qui est décédé hier ou avant-hier. Hein, c'est Stan Lee, donc créateur.
Les grands enfants quand même.
Les petits maintenant ils connaissent tous.
Oui,
super,
mais c'est
Spider-Man.
C'est...
Alors j'allais dire Superman, c'est pas Stan Lee.
Non,
Superman.
Sois pas insultant s'il te plaît. J'ai c'est d'ici ça.
Ouais, et puis c'est beaucoup moins bien. Donc voilà Spider-Man, les trois quarts de l'écurie Marvel, c'est Stan Lee qui en est à l'origine. Il est décédé, donc voilà, c'était juste pour rendre hommage à cette
pop
culture.
Il a été beaucoup critiqué de se trimballer avec des bimbos en bikini, peut-être volé quelques personnages et quelques idées.
Alors, le monde du comics aux États-Unis d'Amérique.
Je voulais juste le redire.
C'est l'horreur, la jungle, tout ça. Voilà. Mais c'est quand même quelqu'un qui a.
Mais il faudra lui reconnaître une chose, c'est qu'il a.
C'est un des rares qui a eu de l'argent.
Et il a su se sortir les comics, il a su redévelopper les comics et faire de l'argent avec, parce qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui se sont fait exploiter
par Marvel.
Par
les auteurs. En fait, c'est les maisons d'édition tiennent tout le monde.
Il a réussi aussi à redonner vie à des personnages qui étaient partis un petit peu dans du vintage, on va dire, ou du kitsch, carrément. Et que grâce à ça, il y a des auteurs qui se sont remis à redessiner et à écrire sur des personnages. Il y a des nouvelles versions. Et puis, certes, il a fait du pognon avec Marvel en remettant des films, et puis Marvel c'est Disney aujourd'hui, il faut bien se rendre compte de ça. Donc voilà, c'est quand même là-dessus, il faut quand même lui reconnaître son côté entrepreneur il a su renverser la machine sur des auteurs qui quand même ont été beaucoup exploités.
C'est quand même
un cas particulier,
quelqu'un qui a une influence importante dans la pop culture moderne, puisque tout le monde, je pense, connaît Spider-Man dans le monde entier quasiment.
Mais je pense que tu peux aller même au-delà de là, les X-Men, les films ont aujourd'hui redéveloppé finalement les comics, et c'est plutôt bien, parce que ça veut dire qu'il y a du livre.
Ouais,
voilà. Même s'il y a des films, ça veut dire que ça a redéveloppé quand même la lecture, et ça, c'est super.
Ouais. Bon, bref, après notre comment on dit quand on fait
Tu diras pas.
Bon, bref,
on va parler de choses plus sérieuses.
Dit du bien d'un auteur de comics des États-Unis d'Amérique. On va parler de quoi ? Deux infos internationales aujourd'hui qui montrent que la politique, c'est quand même pas loin d'être la guerre. Deux crises, on va dire, gouvernementales, puisque la première a lieu en Israël, puisque le ministre d'extrême droite ultra-raciste Avigdor Lieberman a annoncé hier sa démission du gouvernement Netanyahou. Et ça, je dois le dire, c'est une immense nouvelle. Et immense et bonne nouvelle. Alors ça vient de quoi ? C'est juste après le cessez-le-feu qui est intervenu la veille de sa décision. Cessez-le-feu avec le Hamas et la bande de Gaza, du coup, et le gouvernement de Netanyahou. Donc voilà, il a qualifié, je cite, le cessez-le-feu de capitulation devant le terrorisme. On comprend quelque part son désaccord. Ça, c'est pas le seul. puisqu'il y a aussi le ministre de l'éducation du gouvernement Netanyahou, qui est un autre ministre d'extrême droite, qui vient d'un autre parti, qui s'appelle Naftali Bennett, c'est le nom du ministre, Naftali Bennett, qui est un parti ultra-religieux, lui, une autre partie de l'extrême droite. Bref, depuis ce cessez-le-feu de mardi, l'extrême droite amie de Netanyahou est pas contente. Alors, ce cessez-le-feu, on va resituer dans quel contexte il est arrivé. L'armée israélienne a tenté vraisemblablement d'assassiner un des leaders de la branche armée du Hamas, Nour Baraka. Et, alors souvent ils sont assez forts quand même l'armée israélienne, mais des fois pas. Et là, ils se sont plantés complètement. Ils ont été ridicules, malgré l'aviation israélienne, malgré des moyens énormes. Le bilan a été de 14 Palestiniens de la bande de Gaza tués et un officier israélien attaquant, donc tué. Et puis, ils n'ont pas assassiné le mec qu'ils voulaient assassiner. Donc, face à ce... Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça arrive en même temps, cette attaque, que des pourparlers qui avaient lieu entre le Hamas, donc qui, on rappelle, est au pouvoir dans la bande de Gaza, et d'autres pays arabes qui essayent de trouver une solution, ou en tout cas de calmer le jeu, notamment le Qatar. Et c'était en même temps. On ne comprenait pas pourquoi il y avait à la fois cette attaque et ça en même temps. En tout cas, il y a eu une sorte de... Suite aux négociations qui ont eu lieu en Égypte, hein, c'était un peu... parrainé par l'Égypte, il y a un cessez-le-feu qui a été signé par le Hamas et donc par Netanyahou, ce qui a créé cette crise au sein de la coalition gouvernementale qui dirige aujourd'hui Israël depuis déjà un petit moment. Alors, officiellement, donc Lieberman, il a démissionné de son poste. Son parti, donc d'extrême droite, Israël Beitenu, se retire de la coalition. Alors, comme ils ont que 5 élus à la Knesset, qui est le parlement israélien, ils arriveront pas à faire basculer et à faire tomber le gouvernement, puisqu'il reste légèrement majoritaire, Netanyahou, avec ses autres alliés. Mais tout le monde en profite en Israël, on va dire, puisqu'on a eu, par exemple, la réaction de Meretz, parti d'opposition à gauche, qui a annoncé qu'il déposerait un projet de loi la semaine prochaine pour demander la dissolution de la Knesset, du Parlement, et de lancer des nouvelles élections. Il faut savoir que, normalement, les prochaines séances, elles sont prévues dans un an, en novembre 2019. Du coup, ils essayent d'accélérer les choses. Donc voilà, grosse crise politique en Israël. Alors, les réactions en dehors d'Israël, il y a surtout une réaction du Hamas, et ils ont fait la teuf, hein, on peut parler comme ça, je suis pas sûr qu'ils soient du genre à faire des teufs, le Hamas. Mais en tout cas, ils ont manifesté leur joie, puisqu'il y a eu une mini manif avec un peu de bouffe, de victuailles échangées, quelques pancartes montrant la tête de Lieberman barrée avec des slogans du genre Gaza a renversé Lieberman. Effectivement, il est quand même tombé sous le coup du Hamas, mais pas sous des coups physiques, sous un coup politique. Donc voilà, bon, c'était de bonne guerre que le Hamas fasse ça. La solution, de toute façon, pour l'instant, on ne la voit pas venir non plus dans cette région-là. Voilà, une grosse crise quand même politique. Mais il n'y a pas d'espoir, hein, parce que même s'il y avait des élections, il y a des chances que la droite et l'extrême droite ressortent vainqueurs. Et donc on ait la même politique raciste et sans politique guerrière en plus dans la région.
Dimanche, 7 morts, 10 blessés, hein, avec des bombardements dans la bande de Gaza. On était le 11 novembre. Ouais. Et il y en a qui célébraient la paix pendant ce temps, il paraît.
Ouais. On va parler Brexit. Maintenant, c'est l'autre catastrophe politique en ce moment, puisque.
Je te sens plus rigolard sur l'affaire.
Ah ouais, ça me fait marrer.
C'est plus moqueur.
Mais c'est des fachos pareils. Donc, si tu veux, c'est de l'extrême droite dans les deux cas. Et c'est l'extrême droite qui en prend plein la gueule. Même si Theresa May est moins porteur d'une idéologie d'extrême droite forte, comme peut l'être Avigdor Lieberman, bien heureusement, elle est quand même de ce côté-là du jeu politique. Même si c'est pas la pire de son parti, qui est un parti officiellement plutôt conservateur, on va le dire, mais c'est elle qui est en charge du Brexit. Hein, c'est bien l'extrême droite qui
a fait voter. Elle se dit en ce moment, mais pourquoi moi ?
Elle l'a choisi.
Je crois qu'elle se dit quand même, pourquoi moi ?
De toute façon, il y a des chances qu'elle saute. Elle a elle a quand même de grandes ambitions politiques.
Allez, on va vous expliquer pourquoi.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accord entre l'Union européenne, enfin un projet d'accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, qu'elle est arrivée à accepter, enfin que les deux parties ont accepté, et elle est allée le présenter, sauf que ça s'est mal passé. Du coup, son gouvernement a perdu 4 membres aujourd'hui. D'un coup. Donc le ministre du Brexit, Dominique Raab, a démissionné. La secrétaire d'État du Travail et des Retraites, Esther McVey, s'est barrée. Le secrétaire d'État à l'Irlande du Nord, Shailesh Vara, est parti aussi. Et la sous-secrétaire d'État chargée du Brexit, Suella Braverman, a démissionné à son tour. Quatre d'un coup.
Alors d'un coup, oui et non, c'est-à-dire d'un coup...
À la queue leu leu.
Et oui. C'est ça qui est encore plus marrant, c'est que paf, t'apprends qu'il y en a un qui a démissionné, paf, il y en a un qui passe encore la porte, et paf, quatre à la suite, ça faisait quand même beaucoup causer aujourd'hui.
Ce qui a beaucoup fait rire Jérémy Corbyn, le boss du Parti travailliste, donc opposant politique de gauche à Theresa May, donc qui représente les conservateurs et aussi quelque part l'extrême droite, hein, puisque c'est quand même, même si elle en fait pas partie, c'est quand même l'extrême droite qui a fait gagner ce Brexit à travers le vote. Donc c'est un peu la pagaille. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce projet d'accord qui énerve un petit peu les pro-Brexit il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire. En fait, on a l'impression que cet accord, c'est juste une période de transition qui dure plus longtemps. Et en fait, c'est pas un accord de séparation de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne. C'est un accord de poursuite des négociations, puisque cette période qu'on va appeler du coup période de transition, qui va débuter à la date officielle du Brexit, le 29 mars prochain, va durer jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, ça va laisser presque 2 ans pour trouver un vrai accord, une vraie un truc un peu cohérent, une nouvelle relation entre ces deux entités. Alors, ce qui a pas mal énervé, c'est ce qu'ils ont appelé le filet de sécurité, qui s'applique sur la problématique de la frontière avec l'Irlande du Nord, puisqu'effectivement, s'il y a séparation telle que toute l'extrême droite, l'UKIP, tout ça, toute l'extrême droite anglaise et puis certains conservateurs, une vraie séparation, ça veut dire que comme malheureusement l'Angleterre occupe toujours l'Irlande du Nord et qu'ils sont pas prêts à lâcher ce bout de territoire, un jour ils seront obligés, mais bon, pour l'instant ils n'en sont pas là, il faut faire une frontière. Et là, les Irlandais, ils n'en veulent pas parce qu'ils ont pris l'habitude de vivre ensemble, du coup. Parce qu'il n'y a pas de réunification de l'Irlande politique, mais il y a une réunification de vie dans les régions frontalières des Irlandais. Donc, du coup, ça bloque. Alors, le filet de sécurité, il permet justement de ne pas mettre de frontières pendant cette période transitoire. Donc, c'est-à-dire que l'Union européenne et le Royaume-Uni se partagent le marché commun. Donc, l'Irlande du Nord, qui commerce beaucoup avec les Britanniques et l'Irlande du Sud plutôt, enfin l'Irlande tout court, peut continuer de faire du commerce avec la Grande-Bretagne qui reste au sein de cette union douanière. Donc ça, c'est un truc important pour les Irlandais qui habitent autour de cette frontière. Il y a pas mal d'autres choses. Grosso modo, c'est pas il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation. C'est juste un truc de transition. Ça va quasiment rien changer à ce qu'on a actuellement. Notamment sur les Anglais qui vivent en Europe, dans l'Union européenne, et sur les citoyens de l'Union européenne qui vivent en Angleterre. Et ben, pendant cette période de transition, ils peuvent toujours le faire. C'est toujours possible. Il reste du coup pendant ces 2 ans là à négocier une vraie séparation où on se remet ensemble et on arrête les conneries, quelque chose qui fonctionne et qui est accepté par au moins une majorité de la population, alors que là ils ont vraiment le cul entre deux chaises parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont changé un petit peu d'avis. Face à eux, il y a toujours ceux qui sont pro séparation, qui veulent un peu à l'image de l'extrême droite qu'on a dans tous les pays d'Europe, fermer toutes les frontières définitivement. Donc voilà, c'est pas un vrai accord, c'est juste une période de transition un petit peu plus longue.
Alors on va reparler des Rohingyas, puisque aujourd'hui, ce jeudi 15 novembre, était le jour choisi, c'est une date choisie par le Bangladesh et la Birmanie dans un accord qui avait été annoncé en novembre 2017. Et puis le processus s'était un petit peu arrêté. Il s'agit donc de renvoyer à la maison, et je mets des guillemets sur renvoyer et à la maison, les Rohingyas, c'est-à-dire les renvoyés en Birmanie. Donc le Bangladesh souhaite quand même un petit peu se débarrasser de ces réfugiés qui sont plus d'un million. Hein. Il faut quand même bien cerner la chose.
Après, il faut savoir qu'une partie des Rohingyas ont envie de rentrer chez eux aussi. Il y en a une partie qui ne veut pas, ils ont trop peur. Alors, mais voilà,
on va y venir. Ouais. Donc, l'idée, là, c'était effectivement de faire de plusieurs groupes. Là, il y avait un premier groupe de 2260 Rohingyas qui devait être renvoyé en bus par groupe à peu près de 150 personnes par jour. Hein, puis ça devait durer, puis tout ça devait s'étaler. Et puis, à un moment, d'arriver à faire en sorte que les gens puissent rentrer. Alors, il y a un petit peu un problème, hein, quand même. C'est que déjà, mardi, l'ONU a demandé de stopper l'opération. Ensuite, le Haut Commissariat aux réfugiés avait dit que l'organisation acceptait de participer si et seulement si les Rohingyas étaient volontaires et s'ils si arrivaient à rentrer pour de vrai chez eux et chez elles dans leur village.
Oui, or une partie du village ont été détruits.
Brûlés, carrément, hein, rasés. Donc ça devient compliqué. Et donc aujourd'hui, il devait y avoir des gens qui devaient se signaler, donner leur nom sur les volontaires. Manque de bol, il n'y a eu personne pour l'instant. Voilà. Oui. Donc là, on est jeudi, je ne sais pas bien comment ça se passe aujourd'hui, là, tout de suite sur place. Peut-être que de votre côté, là, pendant que vous m'écoutez, vous avez un tout petit peu plus d'infos. Ce qu'on sait, c'est que ça, remplir les bus, ça semblait compliqué hein, du côté du Bangladesh, parce que les Rohingyas ont peur, en fait, il faut quand même le dire. Déjà, un, pour aller où ? Parce que la vraie crainte qui est fondée, c'est que les Rohingyas soient replacés dans des camps de transit en Birmanie. Un camp de transit, c'est un vilain mot. C'est un camp. C'est-à-dire qu'on va les déplacer d'un camp à un autre, sauf qu'au lieu d'être en Bangladesh, ben, ils seront en Birmanie, et certainement dans une situation...
bien pire.
Bien pire. Et parce qu'il y a déjà aujourd'hui des Rohingyas qui avaient voulu faire un retour et qui sont aujourd'hui, côté birman, dans des camps. Donc, en fait, la situation n'a pas bien évolué. Je rappelle que c'est une violence. Hein. Ils sont assassinés, on parle de génocide. Il y a des mots forts qui sont employés, pas pour rien. Donc, voilà, il y a aujourd'hui une situation de crise qui fait que le processus ne marche pas, très clairement.
Il faut dire que la Birmanie n'a pas joué son rôle.
Ah, non.
C'est ça. Parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, il y en aurait qui auraient envie de rentrer, mais à condition que la Birmanie ait changé de comportement. Or, pour l'instant, rien ne laisse indiquer que la Birmanie a changé de comportement vis-à-vis des Rohingyas. Du coup, effectivement, on comprend qu'ils sont un petit peu frileux pour retourner sur massacrer en face.
Porte pas vraiment la parole des réfugiés.
D'ailleurs, elle a été déchue à nouveau d'un prix
d'Amnesty International. Ouais. Ça s'est fait cette semaine. Donc c'est tout récent. Donc elle continue à être largement critiquée. Alors elle dit qu'elle a pas vraiment de position, que les militaires, tout ça. Ouais. Enfin, elle a quand même une parole parce qu'avant elle avait de la parole. Et puis maintenant qu'elle est libre, la parole, elle l'a plus. C'est marrant, hein, quand même. Comme on peut aussi, quand on a été oppressé, savoir très bien oppresser les autres. Voilà, toujours est-il que la situation, elle est bien compliquée et que je n'avais pas le bout de la fin de cette opération. Mais semble-t-il que pour l'instant, elle est officiellement pas annulée. Mais en tout cas, elle ne m'affiche pas. Voilà ce que je peux vous raconter.
Alors, je vais faire une petite rubrique un peu rapide, plus rapide que prévu, sur l'énergie et l'environnement, et vous renvoyer sur un article sympathique que j'ai lu sur rue 89 Lyon, qui est en fait une tribune donnée à Loïc Sédel, qui est ingénieur consultant en mobilité urbaine, et qui resitue un petit peu, qui remet un petit peu les choses à plat sur les problématiques de pétrole, d'habitat, etc. Parce que vous savez qu'il y a cette mobilisation populiste qui s'appelle les Gilets jaunes, là, et pour réclamer que le pétrole soit à nouveau pas cher, pour qu'il puisse continuer ses 40 millions de pollueurs, de détruire la planète et de polluer les villes et les villages de France. Et du coup, dans cet article, je vais résumer très très brièvement, se base à partir de chiffres tirés de l'INSEE, et on apprend un truc qui est vraiment à l'opposé du discours, notamment de l'extrême droite pro-automobile, c'est qu'en fait, plus on est riche, plus on habite loin de son lieu de travail. Parce que tout le monde donne l'exemple en permanence du « mais j'ai pas le choix, moi j'habite là où je peux habiter et j'ai 20 km de voiture à faire ou 30 ou 40 pour aller bosser parce que je suis pauvre et que j'ai pas le choix ». En fait, l'article démontre que c'est pas tout à fait ça. Alors il y a une partie de la population qui est un peu éloignée de son lieu de travail, mais en moyenne, les riches sont deux fois plus éloignés de leur lieu de travail que les pauvres. C'est donc un vrai choix et ça rappelle l'étalement urbain lié à la maison individuelle. La maison individuelle, cette idéologie destructrice, elle est portée par les classes moyennes et par les riches et pas forcément par les pauvres, qui n'ont de toute façon, peut-être qu'ils en ont envie, mais ils n'ont pas les moyens. Donc en fait, ça casse un peu le discours ambiant de ces gens qui n'auraient pas le choix. Il y a même s'ils existent, hein, bien évidemment, ils sont loin d'être majoritaires, ça c'est sûr. Mais en plus, voilà, l'étude chiffre de l'INSEE à l'appui démontre qu'en fait, voilà, les riches font deux fois plus de kilomètres
pour aller bosser. Alors, ce que tu appelles riche, parce que c'est toujours un terme qui t'est un peu...
La classe moyenne haute
voilà,
et les,
voilà. Celle qui veut une maison avec piscine.
Voilà, ou une maison tout court, mais
souvent avec piscine.
En tout cas, ni toi ni moi ne sont qualifiés de riches dans cette étude. Donc voilà. Et du coup, l'article s'appelle « Pourquoi les prix du carburant ne sont pas assez élevés ?» Donc c'est bien sûr une provocation, mais c'est quand même la conclusion de l'article, qui effectivement, avec des comparaisons intéressantes sur les États-Unis, par exemple, entre Atlanta et Barcelone, même nombre d'habitants, même kilométrage de ligne métro. Sauf que l'organisation de Barcelone est concentrée, tout le monde a accès au métro, alors que Atlanta, personne quasiment. Et du coup, on fait quatre fois plus on utilise beaucoup plus la voiture à Atlanta qu'à Barcelone. Ça fait deux politiques de la ville différentes et ça fait deux conséquences environnementales très différentes. Voilà, ça résume un peu tout ça. Ça prend l'exemple sur Francfort, par exemple, sur les villes allemandes moyennes. Alors, ce que disait Mathias tout à l'heure, qui a un vrai problème, c'est qu'en France, les villes moyennes perdent des habitants ou se désertifient. Et les grosses villes se boursouflent, ça pose des problèmes, notamment sur le transport. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays qui ont mis en place des politiques très différentes de dynamisme économique, notamment sur le travail, dans les petites villes. Donc voilà, l'article est intéressant, ça recasse un petit peu le discours. Et la conclusion, c'est qu'effectivement, moins le pétrole est cher, plus les gens utilisent leur bagnole et plus on détruit l'environnement. C'est à peu près entre 16 et 17% l'impact des déplacements individuel sur la dégradation de la planète. Je ne parle pas de l'impact local, c'est encore beaucoup plus fort l'impact local. Sur l'ensemble de la pollution, c'est autant que le manque d'isolation, enfin la consommation d'énergie dans l'habitat, c'est autant que plein d'autres choses, que le transport général. Enfin, bon voilà. En fait, l'article dit aussi que c'est pas parce qu'il y a plein d'endroits où on pollue, on détruit la planète, qu'il ne faut pas s'occuper de celui dont on parle actuellement. Ce n'est pas parce qu'il y a des tankers qui transportent des marchandises et qui polluent beaucoup qu'on ne doit pas jouer sur la voiture. La voiture, on peut y jouer, c'est chez nous. Les tankers, on peut jouer en achetant des produits locaux aussi. Mais voilà, tous les combats sont importants parce que tous sont à hauteur de 10, 17%, 18%. Et donc, tous ont un impact. Et puis, bon, si on parle de la politique de la pollution des villes. On a appris par exemple sur une étude du 30 juin 2018 que la pollution de l'air avait même un impact sur le diabète, puisque d'après cette étude très sérieuse hein, d'un journal qui s'appelle The Lancet Planetary Health, un cas sur 7 de diabète est dû à la pollution de l'air. Alors on se dit, mais c'est quoi le lien entre le problème de gérer le sucre dans le corps et la pollution de l'air? En fait, il y a une suspicion, il n'y a pas la preuve encore, c'est juste des études statistiques qui constatent que la pollution de l'air augmente le diabète. C'est qu'en fait, la production d'insuline serait perturbée par la pollution de l'air qui provoque des inflammations, notamment du pancréas. Et voilà, il y aura un impact qu'on n'imaginait pas sur la santé. Toujours dans l'énergie environnement, le gouvernement utilise l'excuse écologique pour augmenter le pétrole, le prix du pétrole. On sait que c'est qu'une excuse et on en a une preuve aujourd'hui encore, puisqu'il y avait dans le projet de loi 2019, c'était le ministère de la transition écologique qui avait remis un amendement pour mettre un crédit d'impôt sur le remplacement des fenêtres. Hein, c'est la principale source de déperdition dans l'habitat quand les fenêtres sont à simple isolation, simple vitrage. Le ministère, c'est-à-dire Matignon, le Premier ministre, Édouard Philippe, a fait enlever la mesure. Il a dit qu'il l'accepterait pas. Donc ils sont vraiment contre l'écologie, c'est bien qu'une excuse, cette augmentation du prix du gasoil. Et pendant ce temps, l'Espagne nous donne des leçons, puisque hier, le gouvernement espagnol a publié un nouveau plan climat, le meilleur d'Europe, puisqu'ils ont prévu de produire 70% de leur électricité en renouvelable d'ici 2030 et 100% d'ici 2050. On rappelle que la France espère faire 50% de renouvelables d'ici 2050, donc deux fois moins que l'Espagne, comme quoi, hein, quand on veut, on peut, et c'est juste que la France, EDF notamment, ne veut pas. Et d'ailleurs, la mauvaise nouvelle du jour, c'est EDF. J'avais parlé que EDF était en train de racheter, essayer de racheter des terres autour de certaines centrales nucléaires. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quand même de grands risques qu'on installe des nouvelles centrales nucléaires du type EPR. Et ben, juste à côté de Lyon, à 30 km exactement de ce studio, nous avons la centrale du Bugey qui doit être à Saint-Vulbas. Et EDF, avec son allié nucléophile, la SAFER, qui est censé gérer les terres agricoles, cherche à racheter des terres autour de la centrale du Bugey. Alors bien évidemment, quand on pose la question à EDF, ils répondent « Non, on a plein de projets, peut-être pour mettre du renouvelable ou du nucléaire ou... » En fait, ils bottent en touche, ils racontent plein de conneries et il y a quand même de grosses inquiétudes, et notamment de la Suisse, puisque c'est pas très loin de la Suisse. En cas d'accident nucléaire, Lyon en prend plein la gueule, mais Genève aussi. Et EDF est en train de faire ça dans le dos des Lyonnais, dans le dos des populations locales et dans le dos des Suisses aussi. Bah, ils ont l'habitude. Voilà. Et comme quoi, hein, l'Espagne est en train de démontrer qu'on peut faire 100% de renouvelables d'ici quelques années. EDF a vraisemblablement toujours pas compris. Comme quoi... Hein, on peut être une grosse multinationale et être bête comme ses pieds ou avoir des intérêts financiers dans certains domaines. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je crois que tu voulais finir par le Texas.
Non, je pense qu'on peut s'arrêter là. J'aurais pas bien le temps de bien en parler.
C'est vrai. Il nous reste qu'une minute. On va faire un petit agenda.
Et je t'en prie.
Et ben on va commencer par ce qui nous concerne, nous, puisque samedi 17 novembre, nous n'irons pas manifester avec ceux qui veulent polluer plus et mieux. Nous serons plutôt, nous, à la MJC du Vieux Lyon. Toute la journée, il y a une journée organisée par Acrimed 69 pour parler des médias et critiquer les médias aussi. Donc, toute une après-midi, une soirée, 14h30, 15h30, des vidéos, des lectures, des ateliers, 14h30, 17h. Et, 15h30, 17h. Et deux tables rondes, 17h30, 19h. Nous, on sera dans la table ronde sur les médias alternatifs. Je dis nous, c'est Delphine et moi.
C'est pour parler du public, attention, du rapport au public. Oui, oui, effectivement, on sera l'occasion aussi de parler de cette émission et de comment on l'a construit. Ça sera avec le journal marseillais Le Ravi.
Voilà. Et vous pouvez bien sûr venir, c'est entièrement libre et gratuit. Vous pouvez même donner une petite obole si vous voulez, soutenir Acrimed 69. Ensuite, il y a une pause apéritive et il y a une soirée débat, mais c'est tout complet, je crois.
Il semblerait. Mais vous pouvez aller sur leur site internet, hein, et il y a toutes les informations et tout est très très bien expliqué.
Voilà. Alors, 30 secondes pour dire... En même temps, rue de Marseille, à la librairie Terre des Livres, il y a une présentation d'un livre sur la vie de Murray Bookchin, que je ne connais pas mais qui semble-t-il écolo. Mardi, je rappelle, à 18h devant la préfecture du Rhône, qui est au Gagneur, un rassemblement organisé par Jamais Sans Toi. Et voilà. Et en ce moment, une expo sur la salle commune de la librairie, de la mairie du 1er arrondissement sur la Palestine.
Voilà, on vous laisse tout de suite parce qu'on est un petit peu en retard avec l'équipe de l'émission La Petite Cuillère. C'est tout de suite.
Bye bye.
Ciao, ciao. Et on n'est pas là la semaine prochaine.